Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale revient sur la situation humanitaire inquiétante en Haïti, d'où l'appel lancé au début du mois. Les Nations Unies ont demandé 253 millions de dollars pour venir en aide à 2,1 millions d'Haïtiens les plus vulnérables qui sont menacés par l'insécurité alimentaire, par des crises chroniques et des situations conjoncturelles, notamment les événements climatiques et les tremblements de terre. Et pour nous en parler, Bruno Lemarquis, il est coordonnateur humanitaire des Nations Unies en Haïti. Bruno Lemarquis, bonjour.
Bonjour.
Bruno Lemarquis, vous êtes le représentant spécial adjoint au bureau intégré des Nations Unies en Haïti et surtout coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire des Nations Unies donc en Haïti. Vous êtes à New York pour mobiliser en faveur d'Haïti, avec notamment un problème, c'est que 4,6 millions de citoyens haïtiens ont besoin d'une assistance humanitaire. C'est ce qui a notamment été dit par la représentante spéciale devant le Conseil de sécurité. Alors d'abord, Bruno Lemarquis, quelle est l'ampleur de cette crise en Haïti ?
Donc Haïti, c'est un pays où il y a d'énormes problèmes de fragilité, il y a des problèmes structurels, il y a des problèmes chroniques. Donc régulièrement, il y a des manifestations de ces problèmes qui apparaissent sous forme de crise humanitaire. Donc il y a régulièrement des crises humanitaires qui sont souvent dues à des événements ponctuels, des cyclones, le fameux tremblement de terre, etc., des sécheresses. Ce qui fait que ces chiffres sont tellement importants cette année, c'est qu'à ces situations normales, entre guillemets, c'est ajouter une crise politique et son impact sur l'économie haïtienne, donc une crise socio-économique qui a elle-même entraîné des problèmes sécuritaires. Donc il y a eu pendant plusieurs mois en 2019 ce qu'on a appelé « pay lock », c'est-à-dire « lockdown ». Le pays a été bloqué pendant plusieurs mois avec d'énormes conséquences sur la situation sécuritaire, sur l'accès aux services. Les écoles ont fermé, les soins de santé, etc. Les hôpitaux n'ont plus de médicaments, etc. Les mouvements des biens et des personnes ont été sévèrement impactés. Et puis le fonctionnement de l'économie, donc le fonctionnement du marché. Donc tout ça, ça a entraîné un blocage du pays qui a entraîné des grosses conséquences humanitaires. Donc le 4,6, c'est 40% de la population haïtienne, ce qui est un chiffre énorme. Encore plus grave, c'est la situation de l'insécurité alimentaire, puisque parmi ces 4,6, 4,1 sont dans ce qu'on appelle les IPC, donc IPC, qui est l'indice de sécurité alimentaire, 3 et 4. C'est une échelle qui va de 1 à 5. Et 5, c'est la déclaration de famine, ce qui est très rare dans le monde, on déclare des famines. Donc il y a 4,1 millions de personnes qui sont donc en situation d'urgence ou d'extrême urgence alimentaire. 1,2 en extrême urgence alimentaire. La phase d'après, c'est la famine. Donc ce sont vraiment des chiffres assez affolants qui se comparent à de très rares pays. Donc un pays dans la Caraïbe est dans cette situation-là aujourd'hui. Donc c'est une combinaison des fragilités chroniques habituelles d'Haïti, sur lesquelles il faut bien sûr travailler, et puis des problèmes conjoncturels liés en partie à la crise politique.
Alors justement, pour venir en aide aux Haïtiens, donc notamment ces 4,6 millions de personnes, quel est le plan, quel est le programme? Est-ce qu'il y a un appel donc qui a été lancé et de quelle ampleur, de quel ordre donc en termes de millions de dollars et cet appel?
Donc cet appel a été lancé lundi à Port-au-Prince, conjointement avec le gouvernement. Il sera lancé ici à New York cet après-midi. L'appel, parce qu'il faut être réaliste, visera les 2,1 millions de personnes les plus vulnérables, donc 2,1 sur 4,6. C'est un appel pour ce qui concerne Haïti assez important, c'est 253 millions de dollars, donc un quart de milliard de dollars. L'essentiel sur le premier secteur visé, c'est donc tout ce qui est sécurité alimentaire, appui immédiat pendant la période de soudure qui va de mars à juillet, donc c'est très important que ces ressources arrivent très 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 vite. C'est mars à juillet la soudure en Haïti, la principale soudure en Haïti. Le deuxième secteur, c'est le secteur de la santé. En particulier, vu l'impact qu'il y a eu sur le secteur de la santé durant cette période de pay lock. Et ensuite, les secteurs éducation, abri, il y a encore des gens qui ont besoin de logements provisoires, notamment après un tremblement de terre qu'il y a eu dans le nord d'Haïti en 2018. Il y a des gros problèmes de protection, de violences sexuelles, de violences envers les femmes, envers les enfants. Il y a aussi tout un aspect service aux victimes. Voilà, donc 253 millions de dollars. Alors justement, par rapport à cette demande, est-ce qu'il n'y a pas une lassitude des donateurs? On sait qu'Haïti, par le passé, a bénéficié de pas mal d'aides. Vous parliez des tremblements de terre, celui de 2018, mais il y a eu bien sûr celui de 2010. Il y a eu des ouragans, il y a eu toutes sortes de cataclysmes sur cette île, en tout cas ce pays. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, les donateurs, notamment les Américains, les Européens et d'autres puissances, sont prêtes ou sont prêts à jouer le jeu et à verser donc 253 millions de dollars?
Donc on sait qu'il y a énormément de compétition sur les ressources humanitaires dans le monde. Cette année, c'est un niveau jamais atteint avec 29 milliards de dollars au total comme demande pour toutes les crises du monde. Haïti n'est pas forcément sous le radar, puisqu'il y a des crises qui sont beaucoup plus visibles, Moyen-Orient, pays du Sahel, etc., Myanmar, etc. Notre rôle comme Nations Unies, c'est d'y croire et de faire tout ce qui est en notre pouvoir, main dans la main avec le gouvernement haïtien, pour mobiliser la communauté internationale pour qu'elle apporte son appui, qu'elle se rende compte qu'au milieu des Caraïbes, donc il y a une situation si dégradée. Bien sûr, l'humanitaire, ça ne peut pas être la solution au problème chronique d'Haïti. Donc il faut vraiment une aide ponctuelle, parce que la situation est vraiment mauvaise cette année. Il faut une aide continue sur le long terme, avec, encore une fois, sous le leadership haïtien, pour entamer des réformes de structure. Et donc c'est la question du nexus humanitaire-développement, pour faire en sorte que nous éteignions, il faut éteindre l'incendie quand il y a un incendie, mais il faut surtout travailler à ce que l'incendie ne se déclare pas. Donc il y a des domaines où je pense qu'il y a énormément à faire sous le leadership haïtien, avec les Nations Unies et les bailleurs de fonds qui s'intéressent à Haïti, pour apporter des solutions structurelles à des problèmes structurels et des solutions structurantes. Par exemple, mettre en place un système de protection sociale, toute la question de l'adaptation au changement climatique et la gestion des risques et des désastres, toute la question de transformation des produits agricoles et fonctionnement du marché agricole pour empêcher, pour améliorer les conditions d'existence des populations et arriver à bout de ces crises récurrentes en Haïti.
Alors vous parliez justement de travailler main dans la main avec le gouvernement et les autorités. Or, cette fameuse réunion du 20 février dernier, la représentante spéciale, donc Hélène Lalime, a parlé d'une impasse politique et de l'absence donc de Premier ministre et de gouvernement. Est-ce que justement cette situation aggrave la situation humanitaire et comment peut-on vraiment compter sur ces autorités?
Un nouveau Premier ministre est en train d'être installé en Haïti, avec un nouveau gouvernement. De nombreuses les réformes institutionnelles, les réformes de gouvernance, les réformes structurelles qu'Haïti doit entreprendre, bien sûr, a besoin d'un large consensus et d'institutions qui sont en pleine possession de leurs moyens, etc. Donc il y a des discussions pour faire avancer. Les discussions sont en cours, mais c'est sûr qu'il faut un large consensus national pour faire avancer le pays sur le chemin des réformes. Sans ces réformes-là, et certaines ont été discutées depuis très très longtemps en Haïti, c'est indispensable qu'elles soient mises en œuvre, qu'elles soient mises en place, que ce soit au niveau de la réforme de la justice, au niveau des réformes économiques pour rendre l'économie plus compétitive, au niveau de certaines réformes institutionnelles, au niveau de la réforme constitutionnelle. Il y a énormément de réformes à faire avancer sur la base d'un large consensus pour qu'Haïti puisse redémarrer et atteindre ses objectifs dans le cadre des objectifs du développement durable. Pour l'instant, Haïti est en retard par rapport à la mise en œuvre de ses objectifs.
Alors Haïti, vous avez été nommé officiellement début décembre, ça fait quelques semaines que vous êtes en place. C'est un pays que vous avez déjà connu par le passé avec une autre affectation. Justement, entre ces deux affectations, qu'est-ce que vous avez vu changer en Haïti? Qu'est-ce qui a changé, qui fait que donc aujourd'hui vous voyez peut-être d'un regard différent la situation du pays?
Alors moi j'ai travaillé en Haïti depuis 1985, donc j'ai été plusieurs fois, donc j'ai 35 année en gros de perspective sur Haïti. J'ai vécu toute la période 1987 qui était la nouvelle constitution, donc l'ère immédiate post Duvalier. Je pense que le pays s'enfonce sur la si on regarde certains des indicateurs clés de développement, le pays n'est pas sur une trajectoire positive. Il y a eu des petites percées, mais sur le long terme, le pays n'est pas sur une trajectoire positive. Donc il faut vraiment, et on ne peut pas laisser tomber Haïti. C'est vraiment important. C'est un pays qui a une histoire absolument fabuleuse, qui a une culture extrêmement, extrêmement riche, qui a un potentiel incroyable à 500 miles de la Floride, par exemple. Donc c'est très bien placé géographiquement. Ça a une histoire, une culture qui sont extrêmement riches. Donc il faut vraiment remobiliser les énergies pour travailler avec le gouvernement haïtien, avec le peuple haïtien, pour arriver à apporter des solutions à ce que j'appelle les nœuds gordiens, les nœuds gordiens haïtiens, qui ont, dans une certaine mesure, bloqué l'avancée du pays ces dernières décennies.
Alors justement, depuis plusieurs décennies, il y a une présence des Nations Unies qui a été parfois très forte, notamment avec la MINUSTAH. Plus récemment, donc, il y a ce bureau des Nations Unies en Haïti qui est une formule réduite de cette présence. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager justement à nouveau de revenir à d'autres formats plus lourds, plus présents sur place pour répondre à cette demande?
Alors c'est un vieux débat entre Conseil de sécurité et Conseil économique et social. Il y a un certain nombre d'outils dans la boîte à outils du Conseil de sécurité, mais il y a aussi des outils du côté développement. Mon avis, c'est que les principaux problèmes d'Haïti sont des problèmes sociaux, économiques, de pauvreté, etc. Et qu'il faut vraiment un réengagement extrêmement fort, et Kofi Annan en avait parlé à l'époque lorsqu'il était secrétaire général, un énorme appui au niveau du développement, accompagné de réformes structurelles nécessaires menées par le gouvernement haïtien pour apporter des solutions aux questions de pauvreté, aux questions d'emploi des jeunes, à des questions très pratiques pour que le pays, pour redonner de l'espoir au pays sur le chemin du développement. Les missions des Nations Unies ont contained une situation en termes de stabilité et insécurité. Mais à un moment, c'est aux Haïtiens de trouver la solution eux-mêmes par rapport à leur modèle politique et à leur fonctionnement politique. Et vraiment des investissements beaucoup plus massifs qu'actuellement du côté du développement pour sortir toute cette population jeune d'un manque d'espoir. Une grande majorité des jeunes veulent quitter le pays. Oui, donc il faut remettre de l'espoir dans le pays. Et bâtir sur les potentiels, les gros potentiels qu'a la République d'Haïti.
Pourtant, dans le passé, donc, après l'effroyable tremblement de terre de 2010, de janvier 2010, il y a eu des investissements assez lourds qui ont été faits. On sait qu'une partie, hélas, s'est envolée, s'est évaporée à cause de ce mal terrible qu'est la corruption. Est-ce que là, il y a des possibilités à nouveau, justement, de s'attaquer à la racine, comme vous disiez, du mal, et développer de façon socio-économique?
Bon, les Nations Unies, on doit être les premiers optimistes. C'est pour ça qu'on existe. On doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour appuyer les Haïtiens, la communauté haïtienne et le gouvernement haïtien à avancer sur ce chemin, le chemin des réformes, le chemin de s'attaquer aux racines, aux nœuds gordiens, les nœuds gordiens haïtiens. Et c'est aussi notre rôle de bâtir des coalitions, y compris de partenaires internationaux, pour remettre de l'espoir et avancer tous dans le même chemin. S'il n'y a pas de développement économique en Haïti, si on compare Haïti à quelques pays de la région, bon, l'assiette économique d'Haïti est restée petite. L'assiette économique de pays de la région a vraiment grandi sur la même période de temps. Donc il faut vraiment travailler sur ces nœuds gordiens, il faut donner de l'oxygène à l'économie, il faut arriver à avoir un consensus plus large au niveau de la résolution des problèmes politiques et appuyer vraiment de manière très forte un agenda de développement et de réforme.
Bruno Lemarquis, merci. Je rappelle donc que vous êtes le représentant spécial adjoint au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire des Nations Unies donc en Haïti.
Merci beaucoup.
Voilà, fin de ce podcast sur Haïti préparé cette semaine par Jérôme Longuet et Florence Westgaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info et aussi nous suivre sur les médias sociaux, notamment sur Facebook, Twitter et SoundCloud. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.